Sœurs, avant de lire la parole de Dieu et la méditer ensemble, j'aimerais dire quelques paroles en particulier. D'abord, vous transmettre les pensées amicales et fraternelles de mon épouse, qui apprécie combien vous pensez à elle, priez pour elle. Ces derniers jours, elle va mieux. Elle attend toujours un rendez-vous pour l'intervention chirurgicale qui aura lieu, je crois, à l'hôpital neurologique à Lyon pour la pose d'un stimulateur contre la douleur. Et puis mon deuxième propos, c'était pour vous dire ma reconnaissance pour ces moments qui précèdent toujours la prédication. Ces moments qui ouvrent la voie, qui nous entourent par les chants, par les exhortations. Béni soit le Seigneur qui, dans son corps, a eu la sagesse de placer chacun à sa place. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, il a établi. Je ne sais pas si vous y pensez, mais c'est l'ordre de Dieu, l'ordre saint, l'ordre sacré, entre guillemets, hiérarchie. Pas les hiérarchies humaines où l'un écrase l'autre, mais harmonieuse. Et vraiment, j'apprécie ces moments. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais ce matin que nous voyons ensemble quelques points concernant notre appartenance au Seigneur. Et c'est à partir d'un texte de l'Ancienne Alliance, mais qui nous renvoie sans cesse au Nouveau Testament, que nous conduirons la méditation. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, le passage 4 à 22, qui nous parle du retour de Jacob de la Mésopotamie au Canaan et sa rencontre avec son frère Ésaü. Alors, Genèse 32, 4 à 22. Jacob envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna des ordres et dit: vous parlerez ainsi à mon frère, à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et m'y suis attardé jusqu'à présent. Je possède taureaux, ânes, petit bétail et servantes, et j'ai tenu à envoyer des messagers pour informer mon seigneur Ésaü afin de trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent vers Jacob et dirent: nous sommes allés chez ton frère Ésaü. Lui aussi marche à ta rencontre. Il a 400 hommes avec lui. Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail et les chameaux, en disant: si Ésaü parvient à l'un des camps et le saccage, le camp restant pourra s'échapper. Puis Jacob s'écria: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur qui m'a dit: retourne vers ton pays et ta famille et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je n'avais passé le Jourdain qu'avec un seul bâton. Et maintenant, je forme deux camps. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne vienne et nous frappe, moi, la mère avec les enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Et je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut compter tant il y en a. Jacob demeura cette nuit-là en ce lieu. Des bêtes dont il disposait, Jacob préleva un présent pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il remit aux mains de ses serviteurs chaque troupeau séparément et leur dit, « Passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. » Puis il donna cet ordre au premier serviteur. « Lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et t'interrogera en disant, « À qui appartiens-tu ? Où vas-tu ? À qui est ce troupeau qui te précède ?» Tu répondras, à mon serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésaü, et lui-même vient derrière nous. Il donna le même ordre au second, puis au troisième, puis à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. C'est de la même manière, dit-il, que vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Et vous lui direz, ton serviteur Jacob vient lui aussi derrière nous. Il se disait en effet, j'adoucirai son humeur en me faisant précéder de ce présent. Après quoi, je le verrai en face et peut-être me fera-t-il bon accueil. Le présent passa en avant et lui-même demeura cette nuit-là au camp. À qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient tout ce qui est devant toi? Oui, après bien des années passées en Mésopotamie, berceau de ses ancêtres, l'actuel Irak, où il avait trouvé refuge, Jacob prend donc la décision de retourner au Canaan, son pays. Mais sur son chemin, s'amoncèlent des contrariétés difficiles à gérer. En effet, on lui annonce que devant lui arrive son frère Ésaü, accompagné de 400 hommes. Naguère, une question d'héritage avait dressé les deux frères l'un contre l'autre. Jacob avait détourné à son profit la bénédiction paternelle qui revenait à Ésaü. Furieux, celui-ci avait alors menacé de mort son frère qui avait dû fuir en Mésopotamie. À présent, il ne peut éviter le face-à-face avec son frère. Il doit alors s'y préparer. Je n'évoque pas ce qui s'était passé derrière Jacob. Là, c'est devant lui le frère qui vient. Mais derrière Jacob, le texte précédent nous dit qu'il y avait son beau-père, Laban, qui arrivait aussi furieux. Si bien que ce passage de la Genèse 32 parle des rencontres que Jacob a eues soit avec les humains, soit avec l'ange de Dieu, avec Laban, son beau-père, avec Ésaü, son frère, et plus tard, avec l'ange avec lequel il va lutter. Mais nous laissons tout ça de côté. Ici, Jacob doit préparer le face-à-face avec son frère. Au-delà du sens historique de ce passage, il y a une portée spirituelle intéressante à regarder. Car la relation Seigneur et serviteur semble occuper une place importante dans le passage. Je ne sais pas si vous avez noté comment ces deux expressions revenaient, Seigneur, serviteur. La première fois, Jacob s'adressait à Dieu en disant, mon Dieu, mon Seigneur. Mais par la suite, Jacob appelle son frère Seigneur, se considérant lui-même comme serviteur, son subalterne. Mais de notre côté, Jacob aussi disposait de serviteurs à son service. Il les enverra comme messagers auprès de son frère. Aussi, nous voyons Jacob donner des instructions à ses serviteurs sur la manière de se présenter devant Ésaü. Il imagine donc un scénario avec les répliques que ses serviteurs donneraient éventuellement aux questions que son frère poserait. Sans doute, ce dialogue imaginaire, préparé par Jacob, révèle son côté rusé et calculateur. Cependant, je trouve dans ses propos, les propos de Jacob, quelque part une certaine exhortation. Je trouve que les propos de Jacob m'amènent à me demander dans quelle mesure ce que Jacob préconisait à ses serviteurs sur le plan humain, dans quelle mesure cela pourrait s'appliquer sur le plan spirituel. Je pense particulièrement à ces trois questions. À qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient tout ce troupeau, tous ces biens qui te précèdent? À travers le sens immédiat et concret, il me semble que tout cela nous rapproche de notre appartenance à Dieu, le Seigneur. Tout cela pourrait nous concerner individuellement ou communautairement. La question « à qui appartiens-tu ?» ça pourrait être posé à l'Église et à chacun des croyants. Où vas-tu, Église du Seigneur ici? Où vas-tu? Et puis, tout ce qui est devant toi, tout ce que tu possèdes, tout ce qui est entre tes mains, à qui cela appartient-il? Voilà les trois questions qui me semblent pertinentes à soulever ce matin. Pourtant, je ne m'arrêterai que sur la première question, à qui appartiens-tu? Mais je mentionnerai rapidement quelques points principaux concernant les deux autres questions. L'appartenance à Dieu, nous verrons que cela dépend avant tout de Dieu lui-même. Nous verrons ensuite que cette appartenance nous entraîne à un attachement au Seigneur. Et enfin, que cette appartenance au Seigneur nous instruit, nous façonne. L'appartenance à Dieu dépend avant tout du libre choix de Dieu. Frères et sœurs, quand nous affirmons parfois « j'appartiens au Seigneur », il nous arrive de faire bien sûr allusion au don de notre vie, à la décision que nous avons prise de notre part. Inconsciemment, nous mettons l'accent sur l'aspect volontaire de ce don, sur le côté personnel de notre décision. En somme, nous nous attribuons l'initiative de cette belle histoire de transformation de notre vie. J'ai donné ma vie, j'ai pris la décision. Et nous imaginons que nous avons pu déclencher nous-mêmes le processus d'appartement à Dieu. Or, contrairement à cette tendance volontariste, dirais-je, la Bible révèle que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine d'une telle opération. De fait, il s'agit essentiellement d'un choix de sa part, d'un appel à nous attacher à sa personne, pour un service qu'il a prévu. Notre don et notre décision ne font qu'exprimer notre foi et notre reconnaissance. Mais ils ne sont pas au départ, à l'origine de cette conversion. Le prophète Ésaïe rappelle comment, dans la première alliance, Dieu s'est choisi un peuple pour lui appartenir. Voici les paroles rassurantes d'Ésaïe. De la part de Dieu. « Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, ô Jacob, Celui qui te façonne, ô Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Vous voyez, c'est Isaïe 43, 1. Je t'ai racheté, je t'ai appelé, tu es à moi. C'est donc Dieu lui-même qui décrète souverainement que ce peuple lui appartient. Et pourtant, faut-il le rappeler, il s'adressait à un peuple inconstant dans sa conduite. Mais le Seigneur prend soin de préciser la raison de cette relation durable, malgré les écarts du peuple. La raison, c'est que je t'ai racheté. Cela signifie que ce peuple a du prix à ses yeux. Cela signifie que Dieu a investi grandement dans cette opération de rachat. Ça, c'était pour le peuple de l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, nous pouvons accueillir une autre belle déclaration. C'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit dans sa lettre à Tite. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne. C'est encore le même processus de rachat de ce qui était perdu, souillé, abîmé. Décision et action volontaire souveraine de la part de Dieu. Comprenons donc bien la portée de ces deux affirmations. D'une part, elles ont valeur de témoignage, c'est-à-dire de paroles dignes de foi. C'est Dieu qui les prononce. D'autre part, elles révèlent une intimité profonde, c'est-à-dire qu'elles sont une expression de son amour. Donc, d'un côté, un témoignage, paroles dignes de foi, de l'autre côté, un amour infini. En outre, nous découvrons dans ces affirmations un autre élément qui renforce notre encouragement. C'est la connaissance parfaite que le Seigneur a de chacun de nous, de ceux qu'il a appelés. Jésus insiste sur cet aspect en le comparant avec l'intimité entre le bon berger et ses brebis. Jésus déclare, les brebis qui appartiennent au berger, il les appelle chacune par son nom et il les amène dehors. Et Paul aussi, à sa manière, rappelle une parole. On ne l'a pas trouvé, la citation est exacte dans les Saintes Alliances, mais Paul nous dit dans 2 Timothée 2,19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ainsi donc, les affirmations de Dieu à son peuple d'autrefois et à nous aujourd'hui, ce sont des paroles dignes de confiance, dignes de foi, des paroles expression de son amour infini et des paroles qui nous encouragent parce qu'il nous connaît, le Seigneur, chacun. Je ne citerai pas le psaume 139 qui nous montre comment Dieu connaît chacun, ses pensées, ses paroles, ses déplacements, etc. Par conséquent, c'est à juste titre que nous pouvons proclamer notre appartenance à Dieu avec action de grâce en nous appuyant sur le témoignage de Dieu. Car ce que nous professons est une réponse solidement fondée sur la parole de Dieu, la parole que nous avons entendue, la parole de foi. C'est l'attestation de l'espérance qui ne déçoit pas et c'est l'assurance de l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Voilà ce qui nous autorise à répondre à qui nous demanderait « À qui appartiens-tu ?» Deuxièmement, l'appartenance à Dieu requiert un attachement à sa personne. Une fois de plus, c'est d'abord le Seigneur qui manifeste son attachement à ceux qu'il a appelés. qu'il s'agisse d'une personne ou d'un peuple. Par la bouche d'Ésaïe, il dit « Mais toi, mon serviteur, toi que j'ai choisi, toi que j'ai tenu par la main, toi que j'ai appelé, toi à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non rejeté. » Ne crains point. » Retenons bien les propos qui soutiennent cette déclaration de Dieu. « Toi, mon serviteur, que j'ai choisi, que j'ai tenu par la main, que j'ai appelé et non rejeté. » Voilà donc l'attachement du Seigneur, l'attachement premier du Seigneur à ses serviteurs, à chacun de nous. Et là encore, notre réaction en tant que serviteur, notre réaction, c'est de manifester notre attachement à notre tour. Il s'établit ainsi une sorte d'alliance réciproque dans laquelle, il est vrai, c'est Dieu qui contribue majoritairement. Ce n'est pas à égalité. C'est Dieu qui prend tout sur lui. Vu sous cet angle, la relation Seigneur-serviteur vient renforcer la notion d'appartenance à Dieu. En effet, un tout petit mot, c'est le mot « avec ». Ce tout petit mot joue un rôle important dans cette relation d'appartenance. Il est mentionné dans la déclaration de l'évangéliste Marc qui dit « Jésus appela ceux qu'il voulut pour les avoir avec lui. » En effet, un bon serviteur s'attache à la personne de son Seigneur, tout comme le disciple s'attache à son maître. Cette condition d'être avec, cette condition est confirmée par une autre parole de Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc c'est le deuxième élément de l'appartenance, de notre appartenance à Dieu, une appartenance qui dépend d'abord du Seigneur, et nous faisons réponse à cette appartenance. Et là, un attachement de Dieu envers nous, auquel nous répondons. Ainsi donc, en vue de l'accomplissement de cette tâche régulière, le serviteur appelé doit sans cesse être en relation étroite avec celui qu'il sert. Sa place est d'être auprès de celui qu'il a appelé. Il doit manifester à tout instant sa disponibilité. Dans la Bible, ce comportement de disponibilité sans faille, ce comportement est décrit par l'expression « se tenir devant ». Se tenir debout devant. Elle est appliquée soit à des grands personnages bibliques, soit aussi à de simples humains. Par exemple, le Deutéronome nous dit, au sujet de Josué, que Josué se tenait debout devant Moïse parce qu'il était serviteur de Moïse. Le premier livre des Rois nous dit aussi que Élie, le grand prophète, qui était au service du Dieu d'Israël, Élie, littéralement, se tenait debout devant le Seigneur. Donc cela concerne de grands personnages. Mais, toujours dans le premier livre des Rois, il nous a dit que la reine de Saba, qui était venue éprouver la sagesse de Salomon, la reine de Saba estimait heureux les serviteurs de Salomon qui se tenaient devant sa face, devant la face de monarque aussi sage. Voilà donc l'attachement du serviteur à son seigneur. Il se tient debout devant lui. Cette posture par laquelle le serviteur se rend présent à son seigneur est aussi rappelée sous d'autres formes ou sous d'autres gestes. Ainsi, le psaume 5e nous parle du croyant qui, dès le matin, se montre prêt à rencontrer son Seigneur. Le psaume nous dit au verset 4, « Le matin, je me prépare et j'attends. » C'est là la première attitude, les premiers gestes que fait le serviteur. Il se prépare, il prépare tout et il attend. Toujours dans ce psaume 5, le serviteur, le croyant, ne manque pas de manifester son respect, sa crainte. Il se prosterne. Et puis, troisième élément de sa compagnie avec le Seigneur, il se confie au Seigneur, ou il confie sa journée au Seigneur. Le verset 9 nous dit, il demande au Seigneur de le conduire par sa justice. Il y a aussi le témoignage du psaume 123, où l'attachement du serviteur au Seigneur est mentionné sous une autre forme. Le psaume 123 nous dit que le serviteur, debout devant son Seigneur qui est aux cieux, lève ses yeux. Il supplie, il écoute. Et comme pour des serviteurs ordinaires qui sont attentifs, il guette un petit geste de la part de son maître. Un petit geste qui signifie la décision de son maître. Le pardon, la pitié ou bien l'ordre d'aller dans telle direction. C'est dans l'Ancienne Alliance, bien sûr. Mais dans l'Évangile, Jésus ne manque pas de souligner avec force comment nous aussi, nous devons nous tenir devant Dieu. Et là, Jésus peut-être surprend. Il dit, nous devons le faire sans chercher à nous faire remarquer, sans ostentation. Il nous dit que nous devons manifester notre attachement filial à notre Père. Nous devons le faire avec sincérité, d'une manière discrète, intime de notre communion avec le Père, dans le secret. Donc je me reprends, Dieu s'attache à nous, le premier, et en retour, nous lui manifestons notre attachement sincère, simplement, sans décorum, dans le secret, en l'attendant. Troisième élément, l'appartenance à Dieu nous façonne en vue d'une tâche précise. Une erreur qu'il m'arrive à moi de commettre, peut-être pas à vous, je ne sais pas. Une erreur dans le service est d'agir avec précipitation. C'est-à-dire que je pense parfois avoir en moi-même une certaine capacité de réaliser la volonté de Dieu quand je l'ai entendu. Bon, j'ai entendu que Dieu voulait ceci ou cela. Je me précipite. Et dans mon impatience ou dans ma naïveté, je néglige de me mettre à l'école du Christ, lui qui est à la fois serviteur et seigneur, un serviteur parfait, un maître doux et humble de cœur, qui ne se contente pas de donner des ordres, mais qui apprend à faire, qui apprend. Le psalmiste priait ainsi au psaume 143, « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Ésaïe, lui aussi, rappelle au peuple que Dieu a choisi que seul le Seigneur rend efficace pour le service. Il rappelle ces paroles du Seigneur, « Jacob, rappelle-toi ceci. Israël, tu es mon serviteur, je t'ai façonné comme serviteur pour moi. » Donc, je ne t'ai pas seulement appelé, mais je t'ai façonné pour être mon serviteur, pour remplir le service auquel je t'appelle. Oui, à ce point de vue, Jésus est pour nous un exemple fiable. Rappelons-nous comment sa communion intense avec son Père lui a été toujours profitable. D'abord, Verbe de Dieu de toute éternité, il était, selon l'expression de l'évangile de Jean, il était tourné vers Dieu. Jean 1, chapitre 1, verset 1. Il était tourné vers Dieu, il était avec Dieu. Mais devenu fils de l'homme par son incarnation, il a gardé, il a entretenu cette précieuse relation. Car il était profondément convaincu qu'il ne pouvait rien faire de lui-même sans l'accompagnement du Père. Et il a vécu dans une dépendance constante, en s'appliquant toujours durant toute sa vie à regarder au Père afin de faire ce qu'il voit faire au Père. Et c'est ainsi que tout ce que faisait le Père, le Fils le faisait pareillement. Donc il ne s'est pas précipité, comme lui avait suggéré Satan au désert. Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, t'as qu'à te débrouiller tout seul, t'as qu'à changer ces pierres en pain. Non, Jésus reste dépendant de son Père. L'évangile de Luc nous rapporte comment Jésus, encore adolescent, manifestait son désir d'apprendre en compagnie des anciens de son peuple, en les écoutant et en questionnant. Mais Luc nous rapporte surtout une question, une réponse à ses parents, une réponse de Jésus. Ses parents qui étaient étonnés de le voir ainsi, il leur dit, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Attachement pour être formé. De fait, à maintes reprises, cet évangile de Luc nous fait découvrir l'assiduité de Jésus à la prière. Depuis son baptême jusqu'aux derniers instants de sa vie sur la croix, Jésus priait. Mais si nous comprenons bien tout ce que nous dit l'Écriture au sujet de Jésus, la prière n'était pas le seul élément de cette formation auprès du Père. La parole de Dieu occupe une place très importante. Même ses adversaires, les adversaires de Jésus, étaient obligés de reconnaître sa profonde connaissance des Écritures. Mais voici ce que nous rapporte Ésaïe sur le secret de cette connaissance. Ésaïe nous dit, chapitre 50, « Le Seigneur, Dieu, m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affligé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas retourné en arrière. » Il y a là donc le Seigneur qui se livre à son Père pour être instruit, pour recevoir la parole, afin que lui, à son tour, puisse être efficace. Donc c'était là le troisième élément de cette appartenance à Dieu, au cours de laquelle nous sommes façonnés, éduqués. Frères et sœurs, en tant que serviteurs, nous avons nous aussi une place réservée auprès de notre Seigneur. D'agréables moments de formation nous attendent. Répondons à son invitation. Venez à moi. Prenez mon joug sur vous. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Après ces trois aspects de l'appartenance à Dieu, je conclus par cette pensée. La joie d'appartenir au Seigneur. La joie d'appartenir au Seigneur qui est Dieu avec nous, qui est Dieu de paix. En effet, ceux qui appartiennent au Seigneur sont appelés, avons-nous vu, mais ils sont aussi envoyés. Et de même que le serviteur est avec le Seigneur pour le servir, de même qu'il se tient devant sa face dans le secret, de même le Seigneur est avec celui qui l'envoie. C'est Marc qui nous dit, nous avons vu ce verset, chapitre 3, verset 13, le Seigneur appela ceux qu'il voulut pour les avoir avec lui, mais la suite nous dit pour les envoyer prêcher. Et dans cette seconde situation, l'envoi, le Seigneur accompagne toujours fidèlement ceux qui l'envoient. Allez, lui dit-il, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, le serviteur doit être au clair sur l'itinéraire à suivre. Précisément, dans notre passage, nous avions lu cette question, où vas-tu ? Une question qui est pertinente à bien des égards, non seulement dans le domaine matériel, mais peut-être surtout dans le domaine spirituel. L'Écriture exhorte tout croyant à être attentif au chemin sur lequel il marche. Il y a en effet des chemins qui ne mènent nulle part. D'autres sont franchement périlleux. Il ne convient donc pas de se déplacer au hasard. Il est important de savoir dans quelle direction s'orienter en fonction du but à atteindre. Aussi, tout serviteur conscient de sa fragilité, mais tout de même soucieux de plaire à son Seigneur, malgré sa fragilité, tout serviteur ne manquera pas de faire sienne ses supplications. Fais-moi connaître le chemin, ton chemin. Montre-moi la voie que je dois suivre. Conduis-moi sur la voie droite. Tiens-moi par la main. Nous trouvons ces supplications dans les psaumes 25, 143, 119. Or, dans ce même ordre d'idées, la joie d'être avec son Seigneur et la présence du Seigneur qui accompagne, nous remarquons que la question de Jacob, « Où vas-tu ?» n'a pas de réponse. Mais toutefois, nous imaginons la réponse. La mission confiée au serviteur de Jacob révèle la direction. Car Jacob lui-même exprime ses intentions en se faisant représentant par une forte délégation, nous l'avons vu. Il se souvient que son frère avait quelque chose contre lui, comme dirait Jésus. Et il exprime son espérance en disant « J'adoucirai son humeur en me faisant précéder par mon présent. Après quoi, je verrai sa face et peut-être me fera-t-il bon accueil. » Nous comprenons par là que le chemin, où vas-tu ? C'est le chemin de la paix et de la réconciliation. Bien sûr, d'autres chemins aussi recommandables existent. Chemin de la justice, chemin de la vérité, chemin de la vie. Mais ici, le sens de la démarche est celui de dédommager un frère qui a été offensé. Et sous cet aspect, Jacob revient à la parole que Jésus aura prononcée. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, il y a d'autres chemins valables, recommandables, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Or, nous constatons, nous le verrons tous les jours, nous le voyons tous les jours, notre monde a besoin de paix. N'est-ce pas pour nous guider sur ce chemin que l'astre radieux s'est levé pour indiquer la naissance du Sauveur, selon l'évangile de Luc, le prince de la paix? L'apôtre Paul ne rappelle-t-il pas cette mission qui nous est confiée? Ayez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Oui, Jésus est à la fois le chemin de la paix et il est aussi celui qui incarne la paix. Il nous appelle à le suivre jusqu'au bout. C'est là donc une joie de servir le Seigneur de la paix dans un monde aussi troublé. Le Seigneur a mis en nous la parole de la réconciliation. Et heureux, dit-il, heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ainsi, à qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient tout ce qui est devant toi? Tout cela pour le service du Seigneur de la paix dans nos jours présents qui sont troublés avant que vienne la grande tribulation. Que le Seigneur nous aide à garder cette place et cette fonction qu'il nous confie dans son amour. Nous sommes à lui. Tout est à vous, nous dit Paul, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Louange à toi, Seigneur. Amen.